Slate Podcast.
Avant, accueillir des inconnus chez soi relevait de l'exceptionnel. Et puis sont arrivés les services de livraison à domicile et les plateformes de location d'appartements entre particuliers. De plus en plus, on ouvre la porte à des gens qu'on n'a jamais vus. Et parfois, on leur laisse même les clés de notre maison. Un jour, Alice est partie en week-end à Marseille. Pour gagner un peu d'argent, elle a loué son petit appartement. Ce n'était pas la première fois, et tout s'était toujours très bien passé, avant que les événements ne prennent une tournure imprévisible. Vous écoutez le 103e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Cette histoire a été recueillie par Rudy Sada. Attention! Cet épisode de Transfert relate l'histoire d'un suicide.
Je vis dans mon appartement dans le 20e depuis environ un an et demi. C'est l'appartement de mon grand frère qui vit au Brésil et qui me le loue. Lui, il l'a acheté, je dirais, il y a 6-7 ans. Il a vécu dedans un petit peu. Ensuite, mon deuxième frère a vécu dedans deux ans aussi. Et maintenant, c'est moi qui ai repris le flambeau. Donc l'appart, c'est un appart parisien assez classique, il est pas très grand, il fait 35 mètres carrés, il est au deuxième étage dans un immeuble. Donc en fait quand on rentre, on a directement le salon avec une cuisine ouverte, et puis au fond il y a la chambre avec une petite salle de bain à côté de la chambre. Quand j'emménage, moi je sors d'une colocation, donc je paye un petit peu moins cher, je suis en dernière année d'internat, je suis pas payée des 1000 et des 100, donc... Vu que je fais pas mal de week-ends en dehors de Paris, ça me semble assez logique de le mettre sur Airbnb, vu qu'il est tout neuf, il est beau, il est bien décoré, et que mon frère est d'accord pour arrondir les fins de mois, de faire quelques week-ends. Donc pour la fête de la musique, avec mes potes, on réserve un week-end à Marseille et on va chez des amis là-bas. L'appartement est très vite réservé par un homme qui s'appelle Patrick et qui a une cinquantaine d'années. Je me souviens pas très bien avoir regardé son profil sur Airbnb, mais en tout cas, il avait déjà fait des réservations, je crois. C'est une réservation instantanée, donc de toute façon, moi, je le choisis pas, il choisit. Et puis, il m'envoie un texto pour avoir un petit peu plus d'infos sur l'appartement. C'est vrai que comme moi, tout se fait par Airbnb, et puis la veille, ils reçoivent le code et tout ça. Ça m'ennuie un peu de répondre. Il m'envoie plusieurs SMS pour avoir le code, savoir exactement quel étage, poser plusieurs questions sur l'appartement, savoir à quelle distance il se situe par rapport à Gare de Lyon... Finalement, il me dit dans un texto, je suis médecin, je viens pour un congrès à Paris, il me raconte un peu sa vie, donc j'habite à Montpellier, je vais venir pour le week-end. Et puis, il me demande si c'est pas plus simple qu'on s'appelle 5 minutes. Et donc, finalement, le mardi soir, en début de semaine, avant qu'il arrive, on s'appelle 5-10 minutes parce qu'il me redemandait quelques petits détails. On papote vite fait parce que je lui dis que je suis aussi médecin. Il avait l'air très gentil, très propre sur lui. Et il me demande à la fin comment on va faire pour que je reprenne les clés. Et je lui dis, moi je serai en week-end à Marseille et je rentrerai que le lundi. Donc faut que vous laissiez les clés dans la boîte aux lettres. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, ça se passe très bien. Il tique là-dessus et en fait, ça lui convenait pas. Il était pas très serein avec ça. Il me dit ouais, moi j'ai déjà eu des soucis avec d'autres locations où j'avais laissé la clé dans la boîte aux lettres. Puis ensuite, on m'a reproché des choses que j'avais pas cassées dans l'appartement. Donc j'aimerais bien quand même qu'on se soit en main propre. Comme ça, on fait vite faire un état des lieux parce que j'ai déjà eu des soucis avec Airbnb et d'autres locations. Et je lui dis non, je suis désolée pour le coup là, il y aura pas d'autres moyens de faire. Donc c'est ça ou rien. Et si ça vous va pas, vous pouvez annuler la réservation. Et bon, il me dit ok, c'est bon, on va faire comme ça, je laisserai les clés dans la boîte aux lettres. Puis après, donc le vendredi arrive, donc j'avais loué l'appartement du vendredi au dimanche, et donc je pars en week-end vendredi après-midi à Marseille, et en fait j'étais très en retard pour partir, j'allais louper mon train, et donc je sors de mon appart très vite avec ma valise, et en fait je le croise juste devant l'immeuble, dans la rue. Enfin, je vois un homme sortir d'un taxi en costard, cravate, un peu bronzé, les cheveux grisonnants. Enfin voilà, je le vois avec une petite bagage cabine et donc je comprends que c'est lui qui arrive. Et moi, j'étais tellement pressée que je lui ai même pas parlé, mais je suis partie en courant en disant « Les clés sont chez la gardienne, bon week-end ». Et donc, je pars en courant. Et donc là, je m'installe dans le train. Et puis je vais à Marseille et donc en arrivant à Marseille, je lui envoie juste un texto en demandant est-ce qu'il était bien installé, en lui donnant le code du Wi-Fi et voilà, juste pour m'assurer qu'il était bien arrivé dans l'appartement, bon, sachant qu'il m'avait quand même écrit pas mal de textos, je m'attendais à ce qu'il réponde, mais donc finalement il m'a jamais répondu. Et je me souviens le soir ou le lendemain, j'avais dit à ma pote, il m'a bien saoulée avec plein de détails. Et par contre là, je lui demande juste, est-ce qu'il est bien arrivé ? Il est même pas capable de me répondre. C'est pas très sympa. Donc le week-end à Marseille se passe très bien. C'est la fête de la musique. On fait la fête tout le week-end. Je suis avec une bande d'amis. Je suis au top. C'est le début de l'été. Voilà, tout est vraiment parfait et donc je dors chez une copine pendant tout le week-end que j'avais pas vu depuis longtemps, donc je suis ravie. On fait bien la fête et le samedi soir aussi, comme le vendredi, on se couche assez tard. Et donc le dimanche matin, on s'est quand même couché à 5 ou 6 heures, on a bien arrosé la soirée et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire une grasse matinée et je me réveille à 9 heures. Avec une boule dans le ventre et un truc inexplicable, une espèce de boule d'angoisse qui fait que j'arrive pas à me rendormir sans savoir l'expliquer. Sachant que je suis pas du tout quelqu'un qui est très psychique, qui croit... Je suis très terre à terre en tout cas, donc c'est vrai que je fais pas de lien, je réfléchis pas spécialement à quelque chose d'autre et juste ma pote me voit réveillée, elle me dit, elle dort encore à moitié, elle me dit ça va pas et je lui dis je sais pas ce que j'arrive pas à m'endormir, j'ai une boule dans le ventre, elle me dit mais qu'est-ce que c'est, elle me demande si c'est mon copain, je fais non, tout va très bien, je sais pas, c'est trop bizarre. En tout cas, j'essaye de m'endormir et je lui dis toi, rendors-toi. Donc je reste un peu comme ça dans le lit pendant une heure. Et puis vers 10h, mon téléphone sonne, c'est la femme de mon locataire Airbnb qui est inquiète et qui m'appelle parce qu'elle a pas eu de nouvelles depuis 2 jours. Et donc elle me demande est-ce que je suis dans mon appartement, est-ce que j'ai des nouvelles, voilà. Et donc je lui dis non, moi j'étais pas là tout le week-end, mais en tout cas il est bien arrivé vendredi, peut-être que... il s'est fait voler son portable, ou peut-être qu'il a plus son chargeur, ou j'en sais rien, vous inquiétez pas, il va arriver. Enfin bon, honnêtement, elle m'appelle à 10h un dimanche, gérer les histoires de mon Airbnb, ça m'intéresse bof, et en plus, je me dis, bon, si ça se trouve, il est avec sa maîtresse pour le week-end à Paris. Enfin, j'en sais rien, je me dis, j'ai pas du tout envie de me mêler de leur vie, donc je la rassure vite fait, puis je raccroche. Mais bon, elle est vraiment inquiète et surtout elle a pas l'air, elle a l'air de quelqu'un de normal au téléphone et elle me dit, nous on se parle tous les jours donc c'est vraiment inhabituel que j'ai pas de nouvelles depuis 2 jours. Elle se met à vraiment me rappeler plusieurs fois dans l'heure, au moins 3 fois et elle me demande est-ce que quelqu'un peut passer, est-ce que moi en tout cas je vais passer et sinon est-ce que quelqu'un peut passer, elle insiste et elle me demande si la gardienne peut passer. Moi, je suis quand même arrivée dans mon appartement depuis quelques mois. Je connais ma gardienne de vue, mais j'ai pas son numéro. Surtout, on est dimanche. Je sais qu'elle travaille pas le dimanche. Donc, je lui dis non, ma gardienne, elle travaille pas. On peut pas. Et elle me dit, moi, je peux l'appeler. Et je lui dis non, j'ai pas son numéro. Elle me dit, mais moi, je l'ai. Il m'a appelé depuis la loge quand il est arrivé. Et donc, je dis, en effet, j'avais laissé les clés chez la gardienne. Bon, ok. Je dis, peut-être, il vous a appelé en arrivant. Je sais même plus si j'ai dit essayer d'appeler ou pas, ou voilà, en tout cas je crois qu'elle a essayé d'appeler et ça n'a pas répondu, donc tout ça c'était vite réglé, et donc très vite elle me redemande, quelqu'un peut passer. Quand elle m'appelle, je me suis quand même fait la réflexion, il a donné mon numéro à sa femme, moi quand je vais dans un Airbnb, je transmets pas le numéro du propriétaire à mes parents ou à mon copain, j'appelle pas spécialement de chez la gardienne, je me dis bon, il... Elle a beaucoup de numéros et c'est un peu bizarre. Et donc là, je comprends qu'en fait, elle va me gâcher un peu ma journée. Et qu'en plus, elle est hyper inquiète. Donc au bout d'un moment, je me dis, quand même, il faut faire quelque chose. J'appelle mon autre frère qui vit à Paris, qui a déjà vécu dans cet appartement avant, qui n'a pas les clés, mais donc qui connaît très bien l'appartement. Et donc, je lui dis, est-ce que je suis vraiment désolée? Je rigole à moitié, nerveusement, je lui dis, je suis désolée. La femme de mon locataire Airbnb insiste lourdement, elle arrête pas de m'appeler depuis ce matin, elle veut absolument qu'on aille voir parce qu'elle a pas de nouvelles de son mari, et moi, je peux pas, je rentre que demain, est-ce que tu pourrais passer, machin? Lui, il me dit non. Ah non, non, c'est mort, dans une heure, j'ai ma compète de swing. Enfin, je vais pas aller dans le 20e là maintenant, non non. Et donc j'insiste, je dis s'il te plaît, enfin en vrai je voyais pas à qui demander d'autre, et donc je dis s'il te plaît, je te paye le Uber, vas-y, c'est un petit détour, vas-y sur ton chemin et tout. Et donc on insiste et voilà. Entre temps donc la dame me rappelle et donc je lui dis bah j'ai envoyé mon frère, je vous tiens au courant. En tout cas, si ça se trouve, d'ici là, il va peut-être arriver à Montpellier, parce que, moi, il m'avait pas donné son horaire de train, mais en tout cas, il était censé avoir quitté le logement à 11h, et il était déjà bien plus de 11h. Une fois que mon frère a accepté, moi, je la tiens au courant que j'ai envoyé mon frère, et donc, après, je lui dis, c'est moi qui vous rappelle. Donc, elle est soulagée, elle me dit merci beaucoup, elle est toujours très inquiète, et elle me dit, merci, tenez-moi au courant. Ben, il y a quand même une heure qui va se dérouler, donc il doit être à peu près midi à ce moment-là, et donc mon frère arrive devant l'immeuble, et donc il m'appelle pour avoir les codes, on reste au téléphone, donc il passe la première grille, il passe la cour, il passe le deuxième grille, et puis il regarde dans la boîte aux lettres parce qu'il a les clés, et il voit qu'il n'y a pas la clé de l'appartement. Moi je suis au téléphone, je fais « bah si, il était censé laisser les clés, bon », donc là je commence à être vraiment... à moitié en gueule de bois, à moitié fatiguée, à moitié stressée, à rien comprendre et à gérer ça depuis Marseille. Donc voilà, entre-temps en plus on était dans la voiture, on allait quand même déjeuner sur un resto sur la plage, donc j'étais pas du tout dans cette ambiance-là et j'avais juste envie que ça se règle et ça commençait à me taper sur les nerfs. Et donc je dis bon, ok, c'est pas dans la boîte aux lettres, vas-y monte, peut-être qu'il a pas compris, enfin je sais pas, monte. Et donc il monte au deuxième étage. Mon frère voit que les clés sont sous le paillasson, donc c'est pas normal. Moi, je suis un peu nerveuse aussi, et la femme était quand même hyper inquiète. Et donc mon frère, il me dit « Bon, c'est quoi ce délire ? J'ai même pas envie d'ouvrir, là. C'est quoi ce bordel ?» Et je lui dis « Bah, je sais pas. » On avait un peu un fou rire nerveux. Je lui dis « Bah, sinon, appelle la police. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas leur dire ? Enfin, faut que t'ouvres, là. Enfin, si ça se trouve, il va pas bien. Il est peut-être à l'intérieur. Enfin, je sais pas. En tout cas, il était 13h. Il était plus censé être là. Il y avait les clés sous le paillasson. Et sa femme, bah, il était toujours pas rentré à Montpellier. Donc, il fallait faire quelque chose. Et j'avoue que j'ai un peu forcé Clément à ouvrir la porte, mais qu'il fallait savoir. On est encore au téléphone, on est en ligne, et donc il ouvre la porte, et donc la porte de l'appartement, on voit le salon et la cuisine, mais on voit au loin la chambre sur la droite, et donc là il referme tout de suite et il me dit « il y a un mec sur ton lit ». Et donc là je panique, je sais plus quoi dire, je lui dis « bah vas-y, appelle-le, qu'est-ce qu'il fait ?» Il me dit « il est allongé sur ton lit, j'ai vu ses jambes, il est allongé sur ton lit ». Je lui dis, il est pas censé être là, tu le vires, enfin, c'est quoi ce bordel? Je pète un câble dans la rue, enfin, c'est horrible. Et donc là, il se passe vraiment plusieurs minutes où il a pas envie d'y retourner, il a absolument pas envie de rouvrir, il a refermé et je lui dis, mais vas-y, parce que je pète un câble. Et puis, il sonne, bon, il attend pas longtemps, mais il voit bien que personne n'entend, enfin, il entend rien de l'autre côté, il voit bien que personne ne vient, et puis il rouvre. Et là, mais c'était vraiment, c'est vraiment nerveux. Enfin, moi, j'étais au bout du téléphone et j'entendais, il disait, ouh, avec vraiment la peur dans sa voix, et j'entendais qu'il n'osait pas avancer, il était resté dans l'entrée comme ça. Il disait, ouh, monsieur, de plus en plus fort, en se disant, je vais essayer de le réveiller ou quoi. Et comme, bah, le mec ne bouge pas, il finit par avancer, et en gros, il, au bout d'un moment, il hurle au téléphone et il me dit, ah, mais il s'est suicidé! Là, je hurle et je lui dis « appelle le SAMU ». Et il me dit « c'est quoi le numéro ?» Et je lui dis « le 15 !» Et on raccroche. Et moi, dans mon idée, il est peut-être encore vivant. Donc en fait, je lui dis tout de suite « appelle le 15 ». Et donc, il raccroche pour appeler le 15. Et donc là, moi, je fais une vraie attaque de panique dans la rue. Je fonds en larmes. Je suis en tremblement. Je suis pas bien du tout. Mes potes savent pas quoi faire. Enfin, c'est l'enfer. Et donc je quitte pas mon téléphone et en fait je savais pas quoi faire. Je savais que Clément était en train d'appeler le SAMU et donc la première chose que je fais c'est en fait d'appeler mes parents qui habitent en banlieue et qui sont du coup qui peuvent venir et j'appelle et donc erreur fatale, ne j'appelais jamais appeler ma mère parce qu'elle sait pas gérer ce genre de situation et donc j'appelle et je suis en pleurs et je lui dis faut que t'ailles aux Envierges, c'est la rue et donc le nom de comme ça qu'on appelle l'appartement et je lui dis ça va pas du tout, ça va pas Clément, ça va pas mais j'arrive pas à en dire plus et elle me dit mais quoi, elle comprend rien parce que enfin Clément, il est pas censé être là-bas. Et je lui dis, j'ai fait un Airbnb et il s'est suicidé. Et la première chose qu'elle me répond, c'est de faire, mais pourquoi t'as fait un Airbnb en me hurlant dessus? Du coup, j'étais encore plus énervée, donc je hurle et je lui dis, en gros, on se crie dessus et donc du coup, finalement, mon père prend le téléphone, il dit c'est bon, on y va et donc voilà, je sais depuis ce jour qu'il faut toujours appeler mon père en premier et pas ma mère. Je rappelle Clément, j'arrive pas à parler et je lui dis qu'est-ce qui se passe et en fait, il décroche et j'entends des bruits derrière et donc je lui dis mais t'es où? Et en fait, lui, là, il met toute sa peur et son angoisse sur moi et donc pareil il me hurle au téléphone et il me hurle dessus et il me dit bah je suis dans la rue, il y a des gens dans la rue, on a le droit de parler, non, tu crois pas que je vais rester dans cet appart? Et donc il me hurle dessus et je dis mais qu'est-ce qui se passe machin et il me dit bah voilà, il était sur ton lit, il y a des boîtes de médoc à côté de lui, voilà, il s'est suicidé, mais il les a pris depuis bien longtemps, il est mort, et donc voilà, j'ai appelé le SAMU, j'ai appelé les pompiers, et puis ils arrivent, et je suis devant l'appartement, je suis ressortie dans la rue. Mes parents viennent, la copine de mon frère vient, enfin ils essayent de gérer ça à quatre et donc en gros la police vient, le SAMU fait un constat de décès, donc en effet il n'y avait pas trop de doute, il était décédé depuis au moins 2 jours et la police prend le corps et puis elle demande quand même à mon frère, enfin elle l'auditionne dans l'appartement. Ah oui, et chose bizarre, ils lui demandent, avant qu'ils arrivent, ils lui ont demandé de retourner dans l'appartement et de décliner l'identité de l'homme, parce qu'en fait, il y avait sa carte d'identité bien, bien en évidence sur la table de nuit, à côté de la boîte des médicaments qu'il avait empilée. Et donc mon frère avait décrit ça, et donc ils avaient demandé de redire le nom. Donc mon frère avait dû décliner le nom, ce qui est bizarre. Le SAMU leur dit à mes parents et à mon frère que il a avalé l'équivalent de 200 comprimés de bêta-bloquants, qui sont des médicaments qui ralentissent le rythme cardiaque et donc évidemment au bout d'un moment quand on en prend trop ça l'arrête. En fait sur ma table de chevet il y avait très très bien rangé cette boîte de médicaments, la bouteille d'eau, le verre, sa carte d'identité avec juste un petit mot tapé à l'ordinateur avec écrit le numéro des pompes funèbres et le numéro de sa femme. C'est tout. Pas de lettres ou pas d'autres explications. Par contre, dans mon appartement, donc il a fait les choses proprement. Il a fermé les volets, ouvert les fenêtres pour pas qu'il y ait de mauvaises odeurs et il s'est mis tout allongé sur mon lit. Avec des tailles morbides, une serviette sous ses fesses au cas où il se viderait. Et donc en fait, il a touché à rien dans mon appartement et il est arrivé directement et il a fait ça directement. C'est-à-dire que, voilà, il a fait ça, il a mis la clé sous le paillasson et il a pris ses comprimés. Le SAMU dit à mon frère qu'il peut avoir des reviviscences et des cauchemars pendant quelques jours, donc il lui donne un numéro de la cellule psychologique. La police leur dit qu'ils vont prendre les clés et que mon appart, je vais pas pouvoir y retourner pendant au moins 5 jours vu que c'est un lieu de décès, enfin on sait pas, donc ils ferment l'appartement et puis ils ont pris les clés. Et donc moi, j'ai mes parents au téléphone et voilà, ils me disent bah là, du coup pendant 5 jours, non, tu retourneras pas dans l'appart, ils ont pris les clés. Donc à ce moment-là, donc moi je suis à Marseille sans appart, mais le c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'à ce moment-là, en fait, la femme du coup de ce monsieur, attend que je la rappelle, et puis comme je la rappelle pas, c'est elle qui me rappelle parce que bon, moi évidemment maintenant que je sais ça, je ne la rappelle pas. Et puis les policiers m'ont dit à mes parents que c'était absolument pas à moi d'annoncer ça, qu'on annonçait ce genre de nouvelles en personne et donc qu'il fallait qu'ils appellent les policiers de Montpellier, qu'ils se déplacent et qu'ils aillent au domicile de sa femme pour lui annoncer en personne. Et donc, ils me disent que je dois pas répondre. Bon, elle m'appelle depuis le matin, donc son numéro, je le bloque parce qu'elle continue de m'appeler sur mon téléphone en me laissant des messages vocaux. Et comme je bloque son numéro et qu'elle voit qu'ensuite elle peut plus m'appeler et que ça va direct sur répondeur, en fait, ils essayent de m'appeler avec différents numéros. Et donc, il y avait entre autres son fils qui m'appelait et qui me laissait des messages vocaux. Et c'était vraiment trop triste, quoi. Il pleurait à moitié sur le répondeur, et je pense qu'à ce moment-là, ils ont très bien compris qu'il y avait un problème, vu que bah à ce moment-là, je ne l'aurais plus jamais répondu. Il est 13-14 heures, je redescends un peu de mon choc. Bon, voilà, j'avais discuté avec mon frère, j'avais discuté avec mes parents, donc je vois que mon frère, ça va, tout a été un peu géré. Et donc, en fait, là, je reçois donc une notification sur mon portable me disant « Votre hôte a quitté les lieux, veuillez noter son séjour, merci. » Donc, la notification Airbnb qui vient de loin. Et là, je me dis, je reçois son paiement. Enfin, voilà, c'était très très morbide, et je pète un câble et je les appelle, en fait, mais vraiment, mais bon, c'est pas de leur faute, mais je hurle au téléphone et je pleurais en même temps, et en fait, ils comprennent qu'il faut me passer à quelqu'un d'autre et qu'il faut gérer ça. C'est pas eux qui peuvent gérer ça parce qu'on est dimanche et que là, le personnel qui me répond n'est pas en mesure de gérer ça. Et donc, en fait, ils me passent à des sections, je pense qu'ils sont responsables de ça chez eux, et ils me passent des sections d'urgence. Mais donc, je finis par avoir quelqu'un qui était à Dublin et à qui je dois parler anglais pour expliquer. Donc je suis à moitié en train de pleurer, à moitié en train de dire en anglais que quelqu'un s'est suicidé chez moi. Et donc ensuite, bon, pour le coup, ils sont réactifs et ils me répondent et ils me disent, on peut prendre en charge plusieurs frais, qu'est-ce que vous voulez, enfin voilà, donc on discute. Donc évidemment, je leur dis, vous clôturez mon compte, vous enlevez toutes mes réservations, je veux plus jamais quelqu'un chez moi, vous annulez tout, évidemment sans frais, enfin voilà. Et après, je leur dis, moi, en tout cas, j'ai plus d'appartement pendant 5 jours, je sais pas où je vais vivre, donc il me faut des affaires, il faut tout prendre en charge, et donc ils me proposent un logement. Donc pour le coup, le logement, je leur dis non, je vais être soit chez mon copain, soit chez mes parents, donc voilà. Mais par contre, oui, ils m'ont un forfait comme quand on perd sa valise, donc un forfait de voilà pour avoir 5 jours d'affaires. Et puis ils me disent qu'ils prendront en charge des 5 séances de psy. Donc plutôt réglo, et je leur dis aussi, évidemment, que je veux jeter mon lit, que je ne veux plus jamais voir ce lit, que je vais le jeter, et que c'est un lit où il y a des coffres en dessous, enfin ça coûte finalement assez cher de se faire livrer, machin, donc voilà. Donc ils me disent, ok, vous faites tout, vous nous enverrez les factures, et voilà. Je sais plus s'ils me disent que c'est pas la première fois ou pas, mais en tout cas, je le comprends, parce qu'ils me passent la section responsable des choses un peu exceptionnelles. Et donc oui, non, si, ils me disent que c'est pas la première fois que ça arrive, mais après, ils ont pas l'air non plus de gérer ça tous les jours. Moi, je suis vraiment tellement énervée contre lui à ce moment-là que je suis pas du tout rassurée de me dire que c'est déjà arrivé. Ça me change rien. Et donc en fait, moi, je suis très remontée, parce que je me dis, mais pourquoi il a fait ça chez moi? Pourquoi il a choisi mon appartement? Pourquoi c'est horrible, mais pourquoi il est pas allé faire ça dans une chambre d'hôtel? C'est des endroits impersonnels, on donne sa carte bleue et puis on fait ce qu'on veut dans une chambre, et au moins ça c'est moins traumatisant, et on n'a pas à revivre dans l'appartement. Enfin, en fait, à ce moment-là, je me dis, si ça se trouve, je vais plus jamais pouvoir revivre chez moi. Et donc je suis dépité et vraiment en colère, et je me dis, mais c'est déjà un geste égoïste de base pour sa famille et pour voilà, mais c'est très triste, c'est un appel à l'aide, mais je me dis, pourquoi il m'a fait ça à moi en plus. Moi, je suis dans la colère parce que cet appartement, je l'adore, je viens d'emménager, que il appartient à mon frère, donc déjà je stresse de devoir lui dire ce qui s'est passé, de devoir l'appeler au Brésil pour ça. Et donc je suis en colère contre lui parce que en plus je me dis il m'a appelé, je l'ai croisé dans la rue, je me rends compte que c'était peut-être complètement prémédité, et je me dis, comment on peut faire ça, comment en arrivant dans mon appartement, en voyant un petit appart bien décoré d'une fille qui vit seule, jeune, avec mes petites photos sur le mur, franchement, comment il a pu me faire ça? Après, évidemment, je pense que il en était pas dans cet état d'esprit là et il était déjà dans son acte, mais il a pas fait attention, et voilà. Mais je me dis, vraiment, à ce moment-là, ouais, c'est vraiment égoïste, et il aurait pu faire ça ailleurs. Et puis avec ma famille, c'est drôle parce qu'il s'est créé un espèce de truc où on a essayé très vite de briser un peu l'ambiance glauque de l'histoire et on a réussi assez rapidement à se mettre à distance et à en rire un petit peu entre guillemets. Voilà, on l'a surnommé le Maccabée, même si c'est pas drôle, mais en fait moi le seul moyen que j'avais de rire de cette histoire et de pas rentrer là-dedans et de me dire que je pouvais revivre dans mon appart, c'était de pas du tout laisser ce mec me gâcher ma vie. Et donc on a réussi à en rire avec Clément, avec Guillaume et voilà. Je rentre le lundi comme prévu. Je vais au commissariat pour récupérer mes clés. Et donc là, le sketch continue parce que au commissariat, du coup, je monte dans le bureau d'un commissaire. Et là, c'était vraiment ambiance Dick Henneck, mais lunaire. C'est-à-dire que le mec avait un peu un accent, les cheveux gominés, une veste en cuir, limite il fumait dans son bureau. Enfin voilà, il y avait plusieurs personnes dans le même bureau, mais bon, c'était vraiment mais surréaliste. Et puis il me dit mais alors là, mais j'ai jamais vu ça, là, mais venir prendre le train pour venir se suicider à Paris quand on habite à Montpellier, mais j'ai jamais vu ça, cette histoire-là, depuis 20 ans que je suis là, et il hurlait comme ça dans la salle, dans l'open space, et je me disais, mais chut, enfin, je sais pas, c'était très bizarre. Il avait aucun tact, il me disait, vous voulez voir les photos? Ah bah ça c'est les photos. Je disais, non, enfin, j'ai pas, heureusement déjà j'ai pas vu ça, donc je veux surtout pas voir des photos, enfin voilà. Puis il commence à se plaindre de la famille en disant qu'ils insistent énormément pour récupérer le corps avant Shabbat parce qu'ils sont de confession israélite. Enfin voilà, il hurlait des détails comme ça et j'hallucinais. Voilà, il dit que la femme est très insistante et que en fait elle est venue le matin avant moi et que apparemment elle est tombée des nues, qu'elle s'y attendait pas du tout, qu'elle n'y croyait pas jusqu'à ce qu'elle ait vu la carte d'identité parce qu'il y avait pas de signe avant-coureur et que c'était pas quelqu'un de dépressif. Et que et donc c'est très triste. Donc bon bref, en tout cas il me raconte toute sa vie et toute la vie de la personne. Et donc il me dit qu'il me rendra les clés le jeudi. Entre temps, du coup, je reste chez mon copain. Donc là, on organise un peu des travaux avec ma mère. On appelle des peintres et tout ça parce qu'on sait qu'on va vouloir refaire quelques petits travaux dans l'appartement. Enfin voilà, juste des peintures et puis changer le lit, mais au moins changer un peu l'ambiance parce que moi là, je me dis bon, ça va être quand même compliqué un peu de déjà c'est la première fois que je vis seule, mais en plus ça va être un peu compliqué de revenir dans l'appart. Moi évidemment j'appréhende le retour dans mon appartement. On m'a rendu les clés, mais je sais que je vais pas du tout y retourner tout de suite. J'avais dit que enfin je redormirai pas du tout de suite, mais je veux juste récupérer des habits, je veux voilà ouvrir au peintre et tout ça, mais je sais que je vais pas y aller seule et ma mère évidemment va pas non plus me laisser seule et donc elle vient à Paris et on récupère les clés au commissariat et puis on remonte chez moi. Quand on arrive devant chez moi, en fait on tombe sur ma gardienne tout de suite et ma gardienne elle est drôle, elle était d'origine polonaise un peu avec un accent et elle était mais dépitée quoi, elle était limite au bord des larmes. Et elle me dit, mais c'est tellement triste ce qui vient de se passer, mais mon Dieu, mais le pauvre. Et on se regarde avec ma mère et on comprenait pas. Et elle dit, mais c'est horrible. Et bon, on se dit, oui, c'est horrible. Mais elle arrêtait pas de dire, mais quelle belle personne. Oh là là, mon Dieu, le pauvre. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et en fait, elle nous raconte que, en arrivant, bah, quand on s'est croisé très vite et que moi je suis partie, bah, lui, il a récupéré les clés à la loge. Et puis, il a tchatché la gardienne, il a papoté. Et puis, il a demandé où était la pharmacie la plus proche. Et elle, du coup, elle lui a indiqué la pharmacie la plus proche. Ils ont un peu papoté. Elle lui a dit, faites un tour aussi vers le parc de Belleville où vous allez voir, c'est très beau au bout de la rue. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il a chopé son numéro, il a passé un coup de fil à sa femme, etc. Et puis en fait, il est allé à la pharmacie, donc je pense acheter ses bêta-bloquants. Il a fait un petit tour dans le quartier, et il est revenu, apparemment, il était aux anges, ravi, et il lui avait même acheté des fleurs pour la remercier de lui avoir indiqué deux, trois trucs dans le quartier. Et donc voilà, donc elle a vraiment le souvenir de quelqu'un d'adorable. Et le dimanche, elle n'était pas là, donc en fait, elle a... Enfin, elle a juste cru qu'il était décédé sur mon lit, je sais pas, d'une crise cardiaque et qu'il s'était pas suicidé. Et donc là, en fait, je me rends compte avec ce que me dit la gardienne que ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais, parce qu'en fait, il avait tout calculé. C'est-à-dire qu'il, déjà, bah, il voulait absolument que quelqu'un le retrouve. C'est pour ça qu'il m'avait quand même, il avait insisté pour pas que il laisse juste les clés dans la boîte aux lettres et que je rentre bien le dimanche, etc. Il avait donné mon numéro à sa femme. Il avait fait exprès d'appeler depuis chez la gardienne pour qu'elle ait le numéro de la gardienne. Donc je me dis, ok, il a préparé le truc dans les moindres détails. Et dans ces cas-là, enfin, je veux dire, mais pourquoi il vient à Paris pour faire ça? Enfin, ça, c'est le seul truc où je n'ai jamais compris et je comprendrai jamais pourquoi il est venu dans mon appartement faire ça. Mais en tout cas, il avait réfléchi à tout. On finit par monter avec ma mère et donc on ouvre. Et là, bon, on a eu la bonne surprise de voir que, en fait, les flics étaient partis en laissant tout en place. Donc, en gros, bah, il y avait sa valise ouverte en grand sur mon canapé, ses chaussures, le verre d'eau avec la bouteille d'eau sur ma table de chevet encore. Donc, en gros, ils avaient juste repris le corps et au moins enlevé les bêta-bloquants. Mais il y avait tout, quoi. Il y avait la serviette sur mon lit. Hein. Donc, là, je repète un peu un câble. Et heureusement, ma mère était là et donc, elle est trop mignonne. Et donc, elle a nettoyé, on a tout jeté le matelas, enfin voilà tout, on a tout jeté et descendu en bas et en fait on a pris la valise et on était un peu dégoûté quoi et enfin on voyait qu'il avait complètement planifié le truc, il y avait très peu dans sa valise et puis finalement on l'a redéposé au commissariat. Ce qui m'a vraiment énervée dans le fait de rentrer chez moi, de voir les affaires et tout ça, c'est que moi j'avais réussi à le mettre à distance parce que j'avais la chance de pas avoir vu le corps et bon, malheureusement c'est mon frère, mais voilà, moi j'avais à vivre dans l'appartement donc j'étais déjà contente de pas avoir dû voir ça, donc là voir les affaires c'est... J'ai trouvé ça pas très respectueux. Enfin, je me disais que la police avait quand même un petit minimum nettoyé les 2-3 affaires qui restaient. Enfin, il y avait très peu, mais je veux dire, ça prend 2 secondes de prendre la valise avec. Voilà, après, ça reste une personne. C'est très triste ce qui s'est passé. Et du coup, on a ramené la valise au commissariat en se disant que sa famille récupérait ses effets personnels et que c'était vraiment un appel... Enfin, c'est pas un appel à l'aide, puisqu'il est passé à l'acte, mais c'était un cas désespéré et que c'est triste. Et voilà, et beaucoup de gens m'ont dit « Tu recevras une lettre, peut-être de la femme, peut-être qu'elle va essayer de te recontacter, c'est quand même dingue et tout ça. » Et finalement, moi, j'ai jamais eu de retour, mais moi, je souhaitais pas du tout qu'on... J'ai jamais eu envie de la rappeler, je comprends très bien qu'elle ne me rappelle pas parce que ça devait être très dur pour elle et... Des gens m'ont même dit, enfin, elle va s'excuser. Je pense qu'elle était tellement triste, elle, qu'elle avait pas que ça à faire de se soucier de moi. Je pense que je me suis protégée en l'appelant le Maccabée, en n'en voulant pas en savoir plus sur vraiment qui il était. Je sais même pas s'il était vraiment médecin. J'ai pas souhaité recontacter sa femme. Oui, je me suis protégée parce que je n'ai pas compris pourquoi ça m'est tombé dessus et que je reste quand même sur ma position. Je pense que c'était pas nécessaire de choisir un appartement sur Airbnb pour faire ce genre de choses et même si je sais que c'est dans ces cas-là vraiment un acte désespéré, j'ai vraiment eu du mal avec la forme et peut-être que oui, plein de gens me disent c'est parce que t'es médecin que t'arrives à prendre vachement de distance. Moi, j'aurais jamais pu revivre dans cet appart. Franchement, c'est fou que tu réussisses à en rire. Je sais pas. Honnêtement, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est prêt à ce que quelqu'un soit mort sur son lit. Mais ça, c'est sûr que oui, j'ai déjà eu affaire au décès. Que quand sa famille me harcelait, j'ai failli craquer en finalement leur répondant en voyant que les policiers à Montpellier n'étaient toujours pas allés chez eux jusqu'à 18h. Et j'ai failli au bout d'un moment leur dire... leur annoncer le décès en me disant bah je l'ai déjà fait avec des familles, je vais le faire. Donc oui, je pense que j'ai pris une certaine distance et peut-être que ça m'a aidé d'être médecin, mais en tout cas moi c'est comme ça que j'ai, c'était mon mécanisme de défense. Le retour chez moi, c'était au mois de juillet, donc tout est terminé, la peinture, le lit. Moi, j'ai quand même eu le temps de penser à autre chose, de prendre quelques jours. Et puis, bon, il vient quand même un moment où j'ai quand même envie d'être chez moi. quand on retourne pour la première fois pour dormir avec mon copain dans l'appart, je crois que c'était le 14 juillet, et en fait, on va dans mon appartement, donc là, on arrive à en rire, on pose nos affaires et tout, les casques de moto, et on ressort pour voir le feu d'artifice. Et on retourne dans l'appart que vers minuit, après le feu d'artifice. Et donc là, il faisait nuit. Et en fait, quand on arrive dans la cour de mon immeuble, on voit très bien tout de suite les fenêtres chez moi. Et il y avait la lumière de ma chambre qui était la seule allumée de tout l'immeuble. Et donc là, fou rire nerveux. Et en fait, je dis, mais c'est quoi ce délire? Ça faisait vraiment mes esprits, quoi. C'était horrible. Et donc, je voulais plus rentrer. Et en gros, c'est juste Flo qui avait oublié d'éteindre la lumière en partant. Peut-être que j'ai trop de distance, hein. Peut-être que c'est encore une fois parce que je suis médecin, mais franchement, ça n'a rien changé. On a passé une très bonne soirée, on était un peu pompette, feu d'artifice, il y a eu ce moment de fenêtre éclairée où ça c'était vraiment le rappel à l'ordre et on a halluciné. Et après on a fait une soirée normale et donc voilà, on a fait l'amour et c'était très bien. Après, quand je suis retournée dans ma vie normale et que non, ça a pris peut-être une semaine après à vraiment plus y penser quand je dormais, mais j'ai repris ma vie normale et très rapidement on n'en a plus parlé. Airbnb nous avait payé des séances de psy qu'on n'a pas faites. Moi, j'ai pas. Ma mère a beaucoup insisté pour que je les fasse parce qu'elle était persuadée qu'il y aurait des petites choses, que c'était trop récent et que je me rendais pas compte, mais que peut-être j'allais quand même avoir du mal. Mais franchement, voilà, quand j'ai vu que je racontais l'histoire à mes amis et à mes proches et que je prenais de la distance et que au bout d'un moment j'avais juste plus spécialement envie d'en parler parce que enfin l'histoire était longue à raconter et donc je sais pas, de moi-même je suis jamais allée voir un psy, donc en fait j'ai pas trop ressenti ce besoin. Et mon frère, comme on lui avait donné le numéro mais qu'il avait jamais appelé la cellule psychologique, bah il s'est dit qu'il avait pas besoin non plus. Là, ça fait un an, je suis bien dans mon appart, on va emménager ensemble avec mon mec, donc on finira par le laisser, mais voilà, j'y pense plus, on n'en parle plus, mon frère Guillaume, il est repassé à un moment, quand il est rentré en France, il a vu les nouvelles peintures et tout ça, enfin voilà, on n'en parle plus, et parfois on en reparle, mais quand on raconte une anecdote et que ça ressort dans la conversation, mais franchement, pas d'état de stress post-traumatique.
Vous venez d'écouter le 103e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Rudy Sada. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.